Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au footballeur autrichien Matthias Sindelar, le Mozart du football, l'homme qui refusa de porter le maillot du Troisième Reich après l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. C'est une rétrospective du football européen des années 1920 à 1940 que nous allons effectuer. Matthias Sindelar est né le 10 février 1903 à Koszló-Beiglo, dans une modeste famille de Moravie, ancienne partie du Grand Empire austro-hongrois, aujourd'hui partie de l'actuelle Tchéquie. La famille du jeune Matthias, qui voit son prénom germanisé en Matthias, déménage à Vienne, capitale de l'Autriche-Hongrie, dans le quartier ouvrier de Favoriten. Avec ses copains, pour la plupart des immigrés de Bohême et de Moravie, Matthias apprend le football dans la rue. Le père de Matthias Sindelar, Jan, est maçon. Sa mère, Marie, est lavandière. En 1917, Jan est tué sur le front italien lors de la Première Guerre mondiale, laissant une veuve et quatre orphelins. Matthias Sindelar devient apprenti mécanicien après la mort de son père. Il exerce plusieurs petits métiers, comme vendeur d'articles de sport. Vienne est la capitale de la musique, avec Strauss, Mozart, Beethoven, Ligeti, Schubert. Le quartier où habite Sindelar est le quartier des briqueteries. Les ouvriers sont payés en briques. Ils effectuent du troc pour obtenir des produits de première nécessité. C'est le lumpenprolétariat. On est dans Vienne la Rouge, très ouvriériste. On comptabilise dans ce quartier une douzaine de nationalités. Un dialecte construit à partir du yiddish avec des mots allemands, tchèques, français sert pour l'assimilation de ces peuples immigrés. Cela rappellera plus tard en Italie le dialecte romanesco, parlé par les tifosi, ces paysans immigrés de l'ensemble de l'Italie qui se retrouvent dans les stades de Rome des années 1950 à 1960. À l'âge de 15 ans, déjà considéré comme un excellent dribbleur et finisseur, Sindelar est repéré par un recruteur de l'Hertha Vienne qui l'engage en 1918 dans ses équipes de jeunes. Peu à peu, le football et les entraînements prennent une grande place au sein de la vie de l'Autrichien qui rejoint l'équipe première au début des années 1920. Sous le maillot bleu et blanc du Hertha, Sindelar parvient à compenser son physique assez frêle, ressemblant à celui de l'enfant de 60 kilos, par sa technique de haut niveau, lui permettant d'esquiver et dribbler à volonté ses opposants et de se faufiler avec une facilité déconcertante au sein des défenses adverses. Ce sont ses caractéristiques qui lui font obtenir le surnom de « l'homme de papier ». À l'époque, le football est l'autre horizon de la condition ouvrière. Alors qu'il doit subvenir à ses besoins uniquement par le football, Sindelar se blesse grièvement au genou en mai 1923, le rendant indisponible pour une durée indéterminée. Son club traverse également une grande crise économique durant cette même période et Sindelar, ainsi que certains de ses coéquipiers, sont licenciés. En 1924, Sindelar rejoint l'Austria de Vienne, le club de la bourgeoisie viennoise. Le football y est influencé par l'esprit anglo-saxon. En 700 matchs disputés avec ce club, il marque 600 buts. C'est l'un des meilleurs joueurs européens des années 1930. En 1926, Sindelar fait ses débuts dans l'équipe nationale d'Autriche en marquant le but vainqueur d'une victoire 2-1 contre la Tchécoslovaquie. Il fait les beaux jours de la Winter Team autrichienne, alors considérée comme l'une des meilleures équipes du monde. Sindelar incarne le génie viennois, un football vif, technique, fait de passes, apprécié de l'intelligentsia autrichienne. C'est le football danubien. Matthias Sindelar est un attaquant, jouant au poste d'avant-centre. Avec la Winter Team, il se montre comme l'un des éléments clés de cette formation, évoluant en deux défenseurs, trois milieux de terrain et surtout cinq attaquants. Dans les années 1930, il est surnommé le Mozart du football par la presse parce que Sindelar et son équipe ne faisaient pas de fausses notes. Sindelar refusera une proposition du Manchester United. En 1934, Sindelar mène l'équipe d'Autriche en demi-finale de la Coupe du Monde en Italie. blessé par le défenseur Luis Monti, l'avançant de la Winded Team ne peut empêcher l'élimination de son équipe face à l'Italie, ni la défaite pour la troisième place face à l'Allemagne. Mussolini avait décidé d'utiliser le tournoi comme une plateforme pour promouvoir son régime fasciste. Adolf Hitler utilisera les mêmes méthodes 2 ans plus tard aux Jeux Olympiques de Berlin 1936. La Coupe du Monde 1938 en France voit l'Italie l'emporter 4-2 face à la Hongrie. Mussolini a ordonné à son équipe de revêtir les chemises noires, symbolisant les milices fascistes italiennes. Les Allemands jouent avec des maillots blancs, comprenant un col rouge rappelant le drapeau nazi. Envahie par l'Allemagne nazie en mars 1938, l'Autriche devient allemande et la Winder Team n'a plus d'existence légale. Très vite, les autorités nazies décident de marquer l'intégration forcée par un match de football amical. Le 3 avril 1938, ce match, sorte de derby, doit sceller les retrouvailles des deux peuples en faisant se rencontrer la Mannschaft allemande et la Winder Team autrichienne et offrir l'image de deux peuples réunis dans la fraternité du football sous les yeux d'Hitler et des hauts dignitaires nazis. Ce match reste connu sous le nom d'Anschlusspiel, match de l'Anschluss. La Winder Team autrichienne affiche un jeu supérieur à celui de la Mannschaft allemande, en particulier grâce à Matthias Sindelar, qui marque un premier but à la 70e minute. Un second but est marqué, peu après, par le défenseur autrichien Karl Zetzak. Cette victoire sportive est souvent présentée comme une opposition politique de Sindelar à l'Anschluss, le transformant en un symbole d'opposition au pouvoir nazi. Ce match va donc faire l'histoire. Par la suite, plusieurs joueurs autrichiens intègrent la Mannschaft, mais Sindelar refuse d'en faire partie, prétextant soit son âge avancé, soit une blessure ancienne. À la fin de sa carrière, Sindelar achète un bar à Vienne, fréquenté par les Juifs. 8 mois durant, il vit caché avec sa compagne juive italienne, traquée par les nazis. La Gestapo le fiche, lui et ses amis, comme sympathisants juifs, tchèques et sociodémocrates. Le 23 janvier 1939, on retrouve son corps inanimé avec celui de sa maîtresse, nu, sur leur lit, dans son appartement, à Vienne. Officiellement, selon le rapport d'autopsie, leur décès est imputé à une intoxication au monoxyde de carbone, due à une cheminée défectueuse. Mais différentes thèses semblent privilégier un double assassinat, mené par la Gestapo. Une enquête policière est d'ailleurs menée, mais le rapport disparaît durant la Seconde Guerre mondiale, et les corps sont incinérés. Plus de 15 000 personnes accompagnent la dépouille de Matthias Sindelar dans les rues de Vienne le jour de ses funérailles. L'année suivante, le 20 janvier 1940, jour d'anniversaire de l'enterrement de Sindelar, 15 000 Viennois se regroupent au cimetière comme une manifestation contre le nazisme. La seule sans doute. Sindelar, l'homme qui n'est jamais mort. Un résistant qui aura refusé de collaborer avec l'Allemagne nazie et qui l'aura payé de sa vie.
C'était la chronique de Gilles Labourroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.